Université.
Découverte.
Participation.
Création.
Expérimentation.
La fabrique sonore.
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 Salut tout le monde, c'est le 4e épisode de La fabrique sonore. Au programme, interview de Anne Moretti qui nous parlera de sa pièce Trouble du comportement et de l'association TAF, Théâtre appliqué en France.
Et puis, nous sommes allés au cœur de la matrice, au SIAM, une installation plastico-performo-féministe le 19 mars 2025 avec le collectif Feu. Mais tout de suite, on écoute Anne Moretti.
Anne Moretti, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Écoute, je suis cette année donc étudiante à Toulouse Jean Jaurès, en master de théâtre appliqué socialement innovant. Le théâtre appliqué socialement innovant, ça consiste à essayer de, peut-être pas de résoudre, mais d'aborder une problématique sociale et de la faire avancer grâce au théâtre. Ce master est le premier qui a été créé en France. Je suis en fait dans la première promotion de ce master. Voilà, et puis j'ai écrit un certain nombre de choses. Et là, cette année, une pièce de théâtre destinée à la sensibilisation et à la prévention sur un sujet difficile qui sont les abus sur mineurs.
Comment est né le spectacle Trouble du comportement ?
Alors, je suis étudiante, mais évidemment en reprise d'études. J'ai pendant 20 ans eu à la fois une double vie professionnelle, une vie artistique. J'ai écrit des scénarios de théâtre musical et deux pièces de théâtre. Et puis une vie autre qui me permettait de gagner ma vie correctement. Je suis arrivée donc à Toulouse parce que dans mon entreprise, il y a eu une possibilité de prendre un chèque, de rupture conventionnelle collective, et que le métier que je faisais à ce moment-là m'a permis de le faire. Donc je suis arrivée en master d'écriture dramatique et création scénique. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait jusqu'à présent, j'avais donc écrit des scénarios de théâtre musical que je chantais aussi, et que je vendais à des musées, des maisons d'écrivains, donc dans ma partie artistique, que ce que j'avais fait, en fait, c'était du théâtre documentaire. Je m'en étais pas rendu compte avant, quoi. Donc je le faisais, mes scénarios de théâtre musical, j'allais chercher des correspondances, des journaux, des choses comme ça. Et puis dans mes pièces de théâtre, j'ai commencé à partir d'il y a à peu près 5 ans à faire du recueil de paroles. Je me suis formée, en fait, au recueil de paroles et au récit documentaire, puis au théâtre documentaire. Donc après avoir travaillé sur une première pièce que j'ai écrite en totalité, mais qui n'a pas été montée en totalité, mais dont un certain nombre de scènes ont été montées dans ce master d'écriture dramatique et création scénique. En fait, c'est en écrivant ma première pièce que le sujet de la seconde s'est invité à un moment dans l'une des scènes. Dans chaque scénario, enfin, on parle des autres, mais on parle aussi de soi. Et en fait, le sujet de la suivante s'invite. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, effectivement, ma première pièce, elle portait sur les successions et les conditions pas très égales qui sont faites aux filles vis-à-vis des garçons. Enfin, dans des successions. Et puis là, enfin, pour la première fois, j'ai interrogé des gens en direct. J'ai interrogé des notaires, des avocats, des psychologues, psychiatres spécialisés dans ces problèmes-là, des personnes déshéritées, un peu moins souvent des personnes déshéritantes. C'est toujours le sujet, c'est d'essayer de trouver les auteurs des violences et qu'elles acceptent de parler, des raisons pour lesquelles elles font ça. Mais quand même, les avocats et les notaires savent pourquoi les personnes font ça et m'ont donné des matériaux très très intéressants. Donc voilà, le sujet des violences sur mineurs s'est invité pendant la pièce précédente.
Tu commences à nous parler du processus d'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce processus d'écriture et sur la recherche ?
La recherche, je pense que j'ai, je sais pas si c'est au début ou dans le courant ou tout, voilà, et c'est pas terminé. Il se trouve qu'il s'est mis à y avoir plein de livres sur le sujet. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y en avait effectivement pas beaucoup. Je me souviens de Sophie Chauveau, La fabrique des pervers. J'ai lu La Familia Grande, mais je travaillais déjà pas mal sur le sujet quand je l'ai lu. Le bouquin de Vanessa Springora, Le consentement. L'anthropologue Dorothée Ducy. aussi là sur le berceau des dominations. Enfin, voilà, je pense que j'ai lu un peu. Bon, écoute, il y a effectivement pas mal de podcasts, pas mal d'émissions. Puis à un certain moment, les gens vous envoient tout ça. Donc la recherche, il se trouvait que les matériaux fleurissaient tous les jours, hein, si je puis dire. Le processus d'écriture lui-même, c'est compliqué de parler de sujets comme ça. Parce que les gens, évidemment, du jour au lendemain, enfin, si on les rencontre, ils vont pas vous raconter cette histoire-là, quoi. Donc, les personnes qui m'ont parlé parce que il y avait des intermédiaires, qu'elles avaient confiance en ces intermédiaires-là, qui eux-mêmes avaient confiance en moi. Donc, ça a pu prendre 6 mois, un an et demi, 2 ans. Enfin, je ne savais pas du tout que des personnes qui m'étaient proches, qui savaient sur quoi je travaillais, un jour, elles me disaient, tiens, il faudrait que tu rencontres mon père. Et bon, voilà. Et le père racontait une histoire incroyable. Donc, dans toutes ces histoires, il y en a qui, le processus d'écriture, il y a des matières, on voit tout de suite que la matière va être passionnante, mais je les enregistre. Je les enregistre parce que je veux garder la chair de ces gens. Ces gens, ils ont des expériences individuelles, singulières, et qui sont aussi, enfin, qui touchent à quelque chose d'universel. Donc, naturellement, quand on fait du théâtre, surtout, moi, je ramasse vraiment la forme à la fin. J'arrête quand je peux plus rien couper. Donc, je vais essayer de trouver cette matière universelle qui est exprimée de manière singulière. Bon, je suis évidemment un humain, donc il y a des choses qu'on m'a racontées. Je les ai laissées de côté. J'étais pas capable. C'était trop fort, quoi. J'étais pas capable de réécrire, styliser la chose tout de suite. Hein. Donc, il m'est arrivé de laisser plusieurs semaines de côté des enregistrements, donc je savais qu'ils étaient passionnants. Bon. Et puis après, quand je pouvais, je réécrivais. Et puis, complètement en fin de parcours, j'ai monté. Alors là, on a parlé de tout ce qui est individuel, il y a aussi des choses collectives. C'est une démarche d'enquête. Il fallait que des personnes, je ne pouvais pas, moi, entendre des choses collectives. Hein. Où est-ce que j'allais les trouver, quoi? Donc, là aussi, ça a pris... En première année de master, j'ai fait un stage avec une policière qui avait elle-même écrit sur les violences conjugales, un peu comme moi, je fais, c'est-à-dire qu'elle avait en intervention, elle avait vu des femmes en intervention, et puis elle avait écrit leurs histoires, pareil, en essayant de les anonymiser. Et donc, cette policière, bon, elle faisait du théâtre, pareil, hein, du théâtre de prévention, et sa pièce était achetée par... Enfin, achetée, elle avait des subventions du Conseil général d'Île-de-France pour la donner dans 18 lycées, et puis elle allait aussi la donner à droite à gauche. C'est elle qui m'a mise en relation avec une psychologue qui connaissait mon sujet et qui animait des groupes de femmes à l'hôpital sur les violences faites aux femmes. Donc ça, j'aurais pas pu le trouver toute seule et j'aurais pas pu être acceptée. Je l'ai pas été très longtemps, parce que le statut d'observateur est difficile, donc pour elle, parce que qu'est-ce que j'avais à faire moi là-dedans, enfin, ça pouvait être un regard extérieur. Donc à un moment, elles étaient d'accord pour que je les enregistre, puis à un autre moment, elles m'ont dit « mais non, on ne vous a jamais dit qu'on était d'accord ». Voilà, il y a une fois où j'ai enregistré, puis la fois d'après, j'ai pris des notes, et ça, c'est des témoignages collectifs, et c'est intéressant parce que c'est une parole différente. Les personnes se lâchent, en fait, quand elles sont entre pairs, si je puis dire, P-A-I-R-S. Il y a une espèce de sororité, de lien qui s'établit. Et ça m'a permis d'aborder mon sujet sous des facettes différentes. Enfin, déjà, évidemment, il était sous des facettes différentes parce que j'ai interrogé une fille de 22 ans, un homme de 78. Donc, forcément, c'était pas la même chose. Mais la parole qui émergeait de ces groupes de parole, c'était encore quelque chose d'autre. Théâtralement, c'est très important. Enfin, j'ai choisi de restituer cette parole collective sous forme de chœur. Donc, ma pièce, il y a des monologues, il y a aussi une histoire qui se passe, enfin une table de psychiatre où il y a un couple qui va voir une psychiatre, et puis ce cœur qui traverse en permanence, donc ces histoires, enfin, les femmes qui composent ce cœur, parce que peut-être il y a des groupes de violences faits aux hommes, mais ça je ne les connais pas, et puis ça aurait été encore plus difficile de les infiltrer et qui m'autorise à les enregistrer. Donc ce sont des groupes de violences faites aux femmes ou à leurs enfants qui ont 18 ans, enfin 16 ans, 18 ans, et puis d'autres, donc je ne sais plus comment c'était réparti, mais vraiment ça concerne toutes les générations. Donc le cœur, mon cœur, il concerne toutes les générations, de 22 à 50 et des poussières. Voilà.
Quel impact espères-tu avoir avec ce spectacle ?
Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'on a des réceptions qui sont chaque fois différentes. Donc là, on a donné à Montauban aujourd'hui, on l'a donné à Toulouse hier. On voit que ça rentre en résonance avec des histoires de certaines personnes. Donc, ce qu'il me semble, c'est que quand ces histoires rentrent en résonance, ça peut permettre à certaines, ou des bouts d'histoires rentrent en résonance avec des bouts d'histoires de personnes, ça permet à certaines personnes de se reconnecter, parce que à une partie de leur histoire, en entendant celle des autres. Voilà, j'espère ça, permettre à certaines personnes de retrouver le fil. On l'a donné devant des INSPE, donc c'est des étudiants qui veulent être professeurs des écoles, et on l'a donné avec des intervenants extérieurs, en particulier une juriste du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles, à Foix. Ben, ces INSPE, ils vont être amenés, enfin ils étaient déjà amenés, vu les questions qu'on a eues, à côtoyer des enfants qui subissent des choses comme ça, et dont les familles, évidemment, enfin, ils sont en opposition à leur, avec les familles. Donc, ben, aider à ouvrir un dialogue sur ce type de choses, c'est le type de réaction qu'on a souvent dans la salle, mais personne ne nous a jamais parlé de ça comme ça. Une fille tout à l'heure qui nous disait « mais enfin, j'ai 20 ans, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas parlé de ça avant ?» C'est un sujet tabou, le dialogue ne s'ouvre pas. Dans le théâtre appliqué, il y a effectivement il y a le document, mais le débat, il fait partie intrinsèque du dispositif. Voilà, ouvrir un dialogue sur le sujet. Je ne sais pas si c'est une bonne définition de l'impact, si c'est ce que tu attends.
Si, ça répond bien, je trouve. Ouais.
Et donc, en parallèle de ton travail sur troubles du comportement, tu es aussi présidente de l'association TAF. Pourquoi et comment est née cette association et quels sont ses objectifs et son fonctionnement ?
Alors d'abord, c'est Clotilde qui est présidente de l'association TAF, mais c'est vrai que je fais partie des membres fondateurs et que j'ai été très active pour que cette association existe. Donc TAF, c'est Théâtre appliqué en France. Donc ce master étant le premier du genre, on s'est dit que c'était pas mal d'avoir une association qui porte les projets des différents étudiants. Et moi, étant la première promotion, on s'est dit qu'on avait une responsabilité de faire ça, et puis aussi pour les autres qui allaient venir après. Il y a une raison très concrète aussi, c'est que on a rassemblé un certain nombre de... On a réussi à avoir un certain nombre de subventions pour ce projet. Des subventions, et l'essentiel des subventions... Enfin, on a des subventions de l'université, la commission sciences et sociétés, on a des subventions du CROUS pour donner notre pièce devant les étudiants, mais on a aussi des subventions d'une structure qui s'appelle le FSDIE, le Fonds de soutien des initiatives étudiantes. Pour obtenir des soutiens financiers aux initiatives étudiantes, il faut être constitué en association étudiante. Et association étudiante domiciliée à l'université. Donc, c'était une condition sine qua non de... c'était une aide au début, et ça le sera, en fait, aussi pour tous les projets qui seront portés par cette association Théâtre appliqué en France. Oui, c'est ça, porter des projets, permettre d'obtenir quelques subventions. Ce ne sont pas des subventions très importantes que donne le FSDIE, mais ça a quand même le mérite d'exister. Et puis, réserver des salles à l'université. Un des grands challenges des étudiants qui montent des projets, c'est de trouver des salles pour répéter. Il y en a très peu. Et en étant association étudiante domiciliée à la Maison des initiatives étudiantes, ce qui est notre cas, on trouve des salles pour répéter.
Comment les étudiants peuvent-ils rejoindre l'association et y participer ?
Alors, tous les étudiants sont les bienvenus et en payant leur cotisation à Clotilde.
Et donc, où et quand pourra-t-on voir la pièce ?
Les prochaines dates sont à déterminer. On envisage une résidence en Ariège, à Saverdun. Notre producteur, en fait, va sans doute déménager, mais était basé à Saverdun jusqu'à il y a très très peu de temps. Et vraisemblablement une représentation à l'issue de la résidence. On espère une date à Paris, parce qu'on est subventionné par le CROUS Paris pour donner des dates à Paris, donc ce serait l'idéal. Et sinon, peut-être en Ariège, vers le milieu du mois d'avril, mais je vous préviendrai.
Et donc, est-ce que tu imagines une suite à cette pièce ?
Oui, j'imagine une suite à cette pièce. Je commence à y travailler, donc je voudrais vraiment... La première partie a été vue sous l'angle des victimes. J'ai interrogé pas mal de victimes. C'est évidemment beaucoup plus difficile, comme je disais tout à l'heure, de voir ça sous l'angle des criminels. Mais j'ai quand même déjà quelques matériaux. On se rend compte que... j'ai des lettres en particulier. Quelqu'un m'a transmis des lettres qui lui avaient été adressées par son agresseur quand il avait 8-10 ans. C'est très étonnant. Donc, je voudrais continuer à travailler sous cet angle-là. Peut-être essayer de trouver une résidence d'écriture en lien avec un hôpital psychiatrique qui m'accepterait. Voilà, est-ce que la confidentialité des échanges rend ma demande crédible ou pas? J'en suis pas certaine, mais idéalement, j'aimerais voir quelque chose sous cet angle-là pour une deuxième partie. Et sur une troisième partie, sous l'angle de la société, pourquoi est-ce que la société couvre? Comment est-ce que la société couvre? Voilà, c'est ça un petit peu la suite envisagée.
Et donc, peux-tu nous dire pourquoi ce nom de trouble du comportement?
Les troubles du comportement sont diagnostiqués aux femmes qui évoquent des abus sur mineurs ou d'une manière générale qui évoque des violences. Au lieu de regarder si les violences ont été commises par le conjoint et la réalité de ces choses-là, en France, que ce soit des psychiatres ou des juristes, on commence par regarder un petit peu du côté de la victime si elle fonctionne bien. Donc, ce qui rend les choses assez difficiles. Lors de notre première représentation, une jeune femme que je connais, qui se plaignait de violence sur son conjoint, a dit « mais c'est exactement ce qui se passe dans la pièce qui m'est arrivé ». C'est-à-dire que la psychiatre lui dit « bon, est-ce que vous avez des antécédents de suicide, d'hospitalisation psychiatrique dans votre famille, etc. » et ne pose aucune question à son conjoint ou son compagnon lorsqu'elle dit qu'il y a des violences. Donc c'est doublement difficile à accepter pour une personne qui se plaint, et on commence par penser que c'est elle qui est folle. Et ce que les psychiatres écrivent donc sur les ordonnances, dans ma pièce, en fait, la personne qui évoque une suspicion d'abus sur ses enfants, ça se termine par une ordonnance pour aller faire un IRM du cerveau avec le motif trouble du comportement. Voilà. Donc le titre me paraissait relativement polysémique, parce que qui a des troubles du comportement? C'est la personne qui dénonce ou c'est la personne qui agit? Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Le sociologue du CRIAVS qui a vu la pièce en septembre a trouvé que le titre, la polysémie du titre était très intéressante. Mais là, de plus en plus, des gens me disent « mais on ne voit pas de quoi il s'agit ». Quand on connaît bien le sujet, on voit de quoi il s'agit.
Pourrais-tu nous dire combien vous êtes sur le plateau ?
Alors, ça aussi, c'est une histoire. Bon, je sais parfaitement que économiquement, parce que j'ai vendu des spectacles musicaux, on vend des spectacles jusqu'à 4 personnes et qu'après, c'est compliqué. Cela étant, moi, j'avais écrit ce texte. À un moment, j'ai demandé à des personnes de mon master, je leur ai dit « est-ce que vous accepteriez de faire des voix pour le chœur dans ma pièce ?» Et elles m'ont répondu « mais Anne, ta pièce, on vient, il n'y a pas de problème ». Alors, je n'allais pas leur dire « j'ai juste besoin de vos voix ». J'aurais dit « écoutez, avec plaisir ». Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que le chœur, en fait, c'était l'élément le plus théâtral de cette pièce. Le reste, c'est du jeu d'acteur. Mais le chœur, ça permet de mouvement. Enfin, la metteuse en scène a commencé par faire des traversées du chœur, en montrant ces femmes, la tête baissée, qui grommellent à peine, qui font des borborygmes, en fait, avant que leurs paroles ne parviennent à maturité, et que les borborygmes deviennent des mots, et que ces mots soient entendus. Donc c'est, en fait, la chose la plus théâtrale qui ait été faite, c'est ce chœur. Donc ça aurait été effectivement absurde d'avoir des voix off, et puis des... Voilà. Donc aujourd'hui, économiquement, je me retrouve avec quelque chose de... Bon, de difficile, être neuf sur le plateau, plus une metteuse en scène qui fait de temps en temps le son, ou plus quelqu'un d'autre qui fait le son, j'en suis bien consciente. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé les subventions qui conviennent, et que non seulement les gens sont payés pour les représentations, mais la quasi-totalité des répétitions aussi, ce qui est quand même pas banal pour un projet qui a moins d'un an d'existence.
Merci beaucoup, Anne.
Merci à vous deux de toutes vos questions.
Je m'appelle Nadège Rossato et je fais partie du collectif PF. On est 5 artistes dans le collectif.
On est le 19 mars à Toulouse au sein du Mirail de l'université.
Là, ce soir, dans la matrice numéro 9, la matrice PF, on organise une soirée performance. C'est une soirée un petit peu particulière puisque pendant un an sur le Mirail, nous avons mené des ateliers avec des étudiants et des étudiantes, ateliers sur féminisme et performance. Et donc, ces personnes vont venir là dans la soirée performer pendant deux bonnes grosses heures tout ce qui a été travaillé dans l'année. Et on reçoit aussi des artistes invités puisque la première soirée performance qui était la semaine dernière a été annulée. Donc là, on est sur une soirée format XXL et on accueille aussi un spectacle qui s'appelle Le Parasite en parallèle de cette soirée performance dans la scène. Et au sein de la matrice, qu'est-ce que c'est qu'une matrice ? Une exposition qu'on va poser dans des lieux pendant un temps donné qui peut varier de une journée à trois mois si c'est possible, et où on va installer tout plein d'objets, des objets. Donc on a par exemple une bibliothèque de livres, tout sur évidemment le féminisme, l'intersectionnalité, l'égalité femmes-hommes, tous ces sujets-là. Et on a également un espace ludique où les gens vont pouvoir venir dans la matrice se promener. Elle est en accès libre la journée et le soir on organise des événements, d'où la soirée de ce soir.
Alors le coup d'envoi est dans très peu de temps, mais du coup l'idée c'est vraiment d'être spectateur, mais pas seulement, c'est de participer aussi.
Eh bien, ça va dépendre des performances. Il y a des performances où on va vous demander d'être actrice et acteur, d'agir. Et en tout cas, la matrice en tant que telle, elle est autonome et tous les objets sont interactifs.
Ça va un peu dans le collectif Feu. Du coup, nous sommes 5. Il y a Mélanie Rochis, Charlotte Castella, Fanny Violo, Nadège Rossato et moi-même, Louise Tardif. On fait de l'installation plastique et dedans de la performance. Et quand on ouvre une matrice, on essaie de faire des rencontres, etc. En effet, il y a ce plan. Mais sachez que ce soir, comme on est sur une extra large, on a assumé, et c'est souvent quelque chose qu'on assume avec le collectif, de frustrer terriblement notre public. Et de lui imposer des choix, parce qu'on est dans une époque où il va falloir choisir son camp, très clairement. Donc ce soir, à plusieurs reprises, vous allez devoir faire des choix, trancher dans le vif, assumez-les, ne vous racontez pas tout ce que vous ratez, racontez-vous tout ce que vous voyez.
Je vais vous raconter l'histoire de Maria del Carmen. Maria del Carmen, Espagne, 13 juin 2005. Elle est assise à un abribus. Elle attend son bus, comme tous les matins. Un homme la croise et lui lance « Bonjour madame, comment vont vos filles ?» Alors Maria del Carmen ne répond pas tout de suite. Elle se lève, elle marche tranquillement. Elle va vers la station-service la plus proche, remplit une bouteille d'essence, allume un briquet, va retrouver l'homme et elle le brûle vivant. Et ouais. Sachant que les hommes représentent 86% des mis en cause pour meurtre, violence physique, 97% des auteurs de violences sexuelles, 96% parmi les auteurs d'inceste, 80% auteurs de crimes de guerre, etc. On va tous les faire. Donc l'élimination systématique des plus influents d'entre eux pourrait à terme sauver l'économie mondiale. Voilà. Et ça, c'est pas mal quand même.
Je suis dans la zone B, appelée la matrice. Le public peut déambuler entre les performances. On a contre un mur un miroir entouré d'affiches de femmes célèbres, de mannequins, chanteuses. On a Rihanna, on a Julia Roberts, Anna Torey. De l'autre côté, on a un twister de la charge mentale. On a un béton débinarisé avec des boules qui représentent la loterie du genre qu'on peut piocher, transformer, bétonner. De l'autre côté, des pancartes de manif. La transphobie n'est pas une opinion. Révolution féministe, intersectionnelle. Culture en lutte. Je ne raserai ni les murs, ni ma chatte. Dans le couloir qui mène à la scène, des livres recouvrent les murs. On trouve Judith Butler, Annie Ernaux, Simone de Beauvoir.
S'il y avait des livres que vous avez lus dans ce qui est proposé, est-ce qu'il y en a qui vous donnent envie? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Quelles sont vos lectures féministes?
Oh, il y a tellement... Peau d'homme, essentiel. Je trouve que pour commencer, c'est trop bien. Juste en slap, il est super fun. Voilà, pour l'éducation sexuelle.
Même les gens éduqués. Moi, j'ai appris encore des trucs alors que je pensais que je savais tout. Et c'est génial.
Il y a la BD là-bas, Mafalda, qui est très cool parce qu'elle est très avant-garde. Parce que... En plus, étonnamment, c'est écrit par un homme, donc voilà. Mais très avant-garde, années 60, en Argentine. En plus, ça parle aussi un peu de la dictature, tout ça, donc ça apporte plein de sujets qu'on connaît pas de l'histoire de l'Argentine, qu'on connaît pas en Europe. Les grandes oubliées essentielles pour juste avoir un grand pan de l'histoire des femmes qu'on n'a pas du tout dans les programmes scolaires. Mythe et meuf, ah, et suivez-la sur Insta. C'est La Nuit Remue Paris sur Insta, et elle aborde tout plein de sujets, tout plein de causes, et féministes, écologie, les causes décoloniales, tout ça.
Ça s'appelle Devenir chienne, qui est juste là. Et là, ça parle des travailleuses du sexe à Barcelone dans les années 80, 60, tout ça. Et il y a pas mal de témoignages et un peu des photos. Et ça parle de sujets qu'on parle pas beaucoup dans le féminisme, dont l'hyperféminisation pour détruire les clichés.
Je sais pas s'il est ici, mais l'événement de Annie Ernaux, il est essentiel pour comprendre à quel point c'est essentiel l'avortement, le droit à l'avortement, parce qu'elle raconte son avortement quand c'était encore clandestin. C'est atroce, mais c'est il faut le vivre ce livre. Et voilà, pour comprendre.
On espère que ça vous a plu. Rendez-vous l'année prochaine.
Université.
Découverte.
Participation.
Création.
Expérimentation.
La fabrique sonore.
Sonore.
Sonore.